Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 7. Elizabeth Jane et sa mère étaient arrivées depuis une vingtaine de minutes. Elles avaient hésité devant la maison, se demandant si cette simple auberge recommandée pour la modicité de ses prix ne serait pas encore trop coûteuse pour leur bourse légère. Elles finirent pourtant par trouver le courage d'entrer et d'affronter l'hôtelier Stanage. C'était un homme silencieux qui tirait et portait les pintes mousseuses d'une salle à l'autre comme la dernière des servantes. Il apportait, il est vrai, à sa besogne, une lenteur majestueuse et tout opposée à leur vivacité, comme il sied à un homme dont le travail est volontaire. Volontaire, ce service l'eût été entièrement sans les ordres de l'hôtesse, que son immobilité au comptoir n'empêchait pas de saisir d'un œil vif et d'une oreille prompte, par le guichet ou la porte entr'ouverte, les commandes des clients que son mari plus proche eût quelquefois négligées. Acceptée dans l'hôtel comme hôte de passage, Elizabeth Jane et sa mère furent menées dans une petite chambre située sous l'un des pignons et s'y assirent. Le principe de l'hôtel semblait être de racheter l'incommodité des couloirs obscurs et tortueux, des planchers et des fenêtres plantées de guingois, par un déploiement de linge éclatant pour l'éblouissement des voyageurs. « C'est trop beau pour nous, on va trop nous demander !» soupira la plus âgée des deux femmes, en considérant avec inquiétude la chambre où on venait de les laisser. « J'en ai peur aussi, » fit Elizabeth Jane, « mais ici, nous devons sauvegarder les apparences. »« Peut-être, mais avant de songer à cela, il nous faut garder de l'argent pour la route. Je crains que M. Henchard n'ait une trop haute situation pour que nous puissions nous faire connaître de lui, alors nous ne pouvons compter que sur nos propres ressources. » « Je sais ce que je vais faire, » répondit Elizabeth Jane, après quelques minutes d'attente, pendant lesquelles l'activité fébrile du rez-de-chaussée avait paru faire oublier leur présence. Et, sortant de la chambre pour descendre l'escalier, elle aborda le comptoir. S'il y avait, entre tant d'autres, une qualité qui distinguait cette créature au cœur droit, c'était la facilité avec laquelle elle oubliait ses aises et sa dignité personnelle pour le bien d'autrui. « Vous avez fort à faire ici, et ma mère n'est pas bien riche. « Ne pourrais-je vous donner un coup de main pour diminuer un peu nos frais ?» demanda-t-elle à l'hôtelière. Cette dame paraissait figée dans son siège, comme si on l'y avait fondue à l'état liquide et que l'on ne pût plus l'en détacher. Les mains sur les bras du fauteuil, elle toisa la jeune fille d'un regard inquisiteur. Un arrangement comme celui que proposait Elizabeth se concluait souvent dans les auberges de village, mais n'était guère de mise dans une ville, même aussi vieillotte que Casterbridge. Pourtant, en femme accommodante pour les voyageurs, la maîtresse de maison ne fit pas d'objection. L'hôtelier taciturne indiqua par gestes et par signes de tête à la jeune fille la place des différents objets, et elle se mit à monter et à descendre les escaliers avec les couverts nécessaires à son repas et à celui de sa mère. Elle s'activait ainsi quand un cordon, vigoureusement tiré à l'étage supérieur, fit vibrer la cloison de bois dressée au milieu de la maison. À cet appel répondit un tintement de sonnette, perdu dans le grincement des fils de fer et de manivelle qu'il avait mis en branle. « C'est l'Écossais !» fit l'omnisciente hôtesse, en tournant les yeux vers Elizabeth. « Voulez-vous voir si son plateau est préparé? S'il l'est, vous le lui montrez. La chambre de devant, au premier étage. » Elizabeth Jane consentit volontiers, malgré sa faim, à retarder l'heure de son propre repas. Elle alla chercher à la cuisine un plateau chargé des plats du dîner qu'elle porta à l'appartement indiqué. Les pièces n'étaient pas spacieuses aux trois matelots, malgré la surface relativement importante des bâtiments. La place prise par les poutres et les chevrons en saillie, par les cloisons, les couloirs, les escaliers, les fours hors d'usage, les sièges et les lits à baldaquins, ne laissait que peu d'espace aux habitants. Ajoutez aussi qu'à l'époque de cette histoire, le brassage à domicile était encore en honneur chez les petits débitants et que l'auberge des trois matelots devait une partie de sa vogue à la qualité de sa bière et à la règle des 12 boisseaux religieusement observée par son propriétaire. Tout, en conséquence, devait céder la place aux ustensiles et aux opérations du brassage. C'est donc dans une toute petite chambre, contiguë à la leur, qu'Elizabeth trouva l'Écossais. Le jeune homme était seul. C'était bien celui qu'elle avait vu s'arrêter sous les fenêtres des armes royales. Il lisait distraitement un journal local et s'aperçut à peine de l'entrée d'Elizabeth. La jeune fille put le regarder sans gêne. Elle observa l'éclat de son front, sous les jeux de la lumière, la coupe soignée de ses cheveux, et l'espèce de duvet qui ombrageait sa nuque, la courbe pure de ses joues, achevant un parfait ovale, le dessin net de la paupière et des sourcils, qui cachaient les yeux baissés. Elle posa le plateau, disposa les mets sur la table, et sortit sans un mot. Quand elle redescendit, l'hôtesse, aussi bienveillante que grasse et inamovible, s'aperçut de la fatigue de la jeune fille, malgré le désir de se rendre utile qui lui faisait surmonter sa lassitude et sa faim. Elle lui ordonna donc d'un ton péremptoire de s'occuper de son souper et de celui de sa mère si elle voulait trouver encore de quoi manger. Élisabeth alla donc chercher leur simple repas, comme elle avait cherché celui de l'Écossais, et regagna la petite chambre où l'attendait sa mère. Elle poussa sans bruit la porte avec le bord du plateau, et fut surprise de trouver Mrs. Henchard, qu'elle avait laissée coucher sur le lit, debout et la mine attentive. À l'entrée de sa fille, elle leva un doigt. Le sens de ce geste apparut bientôt à Elizabeth Jane. La chambre allouée aux deux femmes avait jadis servi de cabinet de toilette à celle de l'Écossais, comme le prouvait la porte de communication, aujourd'hui condamnée et tapissée de papier, située entre les deux pièces. Mais comme il arrive souvent, même dans des hôtels à plus haute prétention que les trois matelots, la moindre parole prononcée dans une chambre était perceptible dans la chambre voisine. C'est ainsi qu'on entendait le bruit d'une conversation chez l'Écossais. Pour obéir au geste silencieux de sa mère, Élisabeth déposa sans bruit son plateau et s'approcha de sa compagne qui lui souffla. « C'est lui !»« Qui lui ?»« Le maire !» Le tremblement de la voix de Mrs. Henchard aurait conduit toute personne moins éloignée de la vérité que cette jeune fille à soupçonner, pour l'expliquer, un lien plus étroit que la vague parenté avouée par elle. Deux hommes causaient en effet dans la pièce voisine. Le jeune Écossais et Henchard, qui, entrés dans l'auberge pendant qu'Elizabeth Jane s'occupait à la cuisine, avaient été conduits avec déférence à la chambre du jeune homme par l'hôtelier lui-même. Élisabeth disposa son petit repas et fit signe à sa mère de se mettre à table. Elle obéit machinalement, mais son attention restait captivée par la conversation voisine. « Je suis montée en passant avant de rentrer chez moi, » disait le maire, sur un ton de bonhomie cordiale. « Mais je vois que vous n'avez pas encore fini votre souper. »« Oh, c'est l'affaire d'une minute, ne partez pas. Prenez un siège, j'ai presque fini et vous ne me gênez pas du tout. » Henchard parut prendre le siège offert et reprit aussitôt. « Eh bien, il faut que je vous demande d'abord si c'est vous qui m'avez écrit ceci. » Et il y eut un bruit de papier froissé. « C'est bien moi, » répondit l'Écossais. « Alors, » fit Henchard, « je vois que nous nous rencontrons par hasard, quand nous avions rendez-vous pour demain matin. Je m'appelle Henchard, et c'est vous sans doute qui avez répondu à l'annonce que j'avais fait paraître dans le journal, à propos d'un poste de régisseur pour mon commerce de blé. Vous êtes bienvenu pour me voir à ce sujet. »« Non, » fit l'Écossais, avec une certaine surprise. « Voyons, » insista Henchard, « c'est évidemment vous qui deviez venir me voir. Joshua Jip, je cherche le nom. »« Vous vous trompez, » fit le jeune homme. « Je m'appelle Donald Farfrae. Je m'occupe du commerce des blés, c'est vrai, mais je n'ai répondu à aucune annonce et ne suis venu ici pour voir personne. Je suis en route pour Bristol, où je dois m'embarquer pour l'autre côté du monde. Je veux tenter la fortune dans les grands districts à blé de l'Ouest. » J'ai fait dans mon métier quelques trouvailles pour lesquelles le champ d'expérience n'est pas assez vaste ici. « En Amérique, bien, bien !» fit Henchard, avec un accent si marqué de désappointement qu'une brume sembla ternir l'atmosphère. « J'aurais pourtant juré que vous étiez mon homme !» L'Écossais répéta ses dénégations et Henchard reprit après un instant de silence. « Je vous suis d'autant plus sincèrement et profondément reconnaissant de ce que vous avez écrit dans ce petit mot. N'en parlez pas, monsieur !» C'est que la chose a une grande importance pour moi en ce moment. Ce tapage que l'on fait autour de mon blé germé m'a fait un peu perdre mon latin. Je vous affirme sur le ciel que j'ignorais la chose avant que les gens ne soient venus se plaindre. Mais il me reste quelques centaines de quintaux de grains sur les bras. Si votre procédé de rénovation pouvait le rendre sain, vous voyez de quel bourbier vous me tireriez. J'ai vu du premier coup que c'est chose possible, mais j'aimerais en avoir la preuve, et je suppose que vous n'avez pas envie de me montrer assez votre secret pour qu'il me soit utile, sans être bien payé d'abord. » Le jeune homme réfléchit un instant. « Je ne vois pas d'objection à vous renseigner, dit-il. Je m'en vais dans un pays nouveau, et ce n'est pas le traitement des blés avariés que je veux entreprendre. Oui, je vais vous montrer la chose. Vous en tirerez meilleure partie ici que je ne pourrais le faire à l'étranger. Tenez, regardez une minute, monsieur. Je vais vous faire voir cela sur un échantillon de grains que j'ai dans mon sac. » On entendit le déclic d'une serrure, le grésillement de grains criblés et tombant sur le sol, puis des explications concernant le nombre d'onces au boisseau, le séchage, la réfrigération et d'autres détails encore. « Cette poignée de grains me suffit bien pour vous montrer le procédé, » reprit le jeune homme. Et après un silence, pendant lequel il semblait suivre tous deux une opération, il s'écria « Tenez, maintenant, goûtez-moi cela !»« C'est parfait! Tout à fait revenu! Ou du moins, presque complètement !»« Tout à fait suffisant, en tout cas, pour en tirer de bonnes farines de seconde qualité, » fit l'Écossais. « Il est impossible de retrouver la perfection, la nature ne le voudrait pas. Mais vous voyez que nous n'en sommes pas bien loin. Eh bien, monsieur, voilà le procédé. Je n'en fais pas grand cas, car je n'aurai guère à m'en servir dans des pays où le climat est plus stable qu'ici. » « Et je serai trop heureux s'il peut vous être utile. »« Écoutez-moi, » plaida Henchard. « J'ai un commerce de blé et de foin, vous le savez, mais j'étais botteleur de foin dans ma jeunesse, et c'est à cette partie-là que je m'entends le mieux. Seulement, je fais surtout des achats de blé maintenant, et si vous vouliez accepter la place, je vous laisserai la direction exclusive de ce genre de commerce, en vous donnant une commission en sus de votre salaire. »« Vous êtes généreux, bien généreux. »« Mais non, je ne puis pas. » répondit le jeune homme, avec une nuance de regret. « Soit, » conclut Henchard. « Maintenant, pour changer de sujet, un bon office en vaut un autre. Ne restez pas là, devant ce pauvre souper. Venez chez moi, je vous trouverai quelque chose de plus appétissant que du jambon froid et de l'ale. » Donald Farfrae exprima sa gratitude pour cette offre, à laquelle il s'excusa de ne point répondre. Il voulait partir de bonne heure le lendemain. « Très bien, » fit vivement Henchard. « À votre aise. » Mais je vous le dis, jeune homme, si votre procédé se montre aussi efficace sur de grosses masses de blé que sur cet échantillon, vous m'avez sauvé la mise, tout étranger que vous soyez. Que faut-il vous donner pour votre secret ? Rien du tout, rien du tout. Vous pouvez fort bien n'avoir pas souvent l'occasion de l'employer, et pour moi, il n'a aucune valeur. J'ai jugé préférable de vous le faire connaître, vu la difficulté de votre situation et l'état d'esprit des gens montés contre vous. « Je n'oublierai jamais le service que vous me rendez, » reprit Henchard après un instant de silence. « Et un étranger encore. Je ne pouvais croire que vous ne soyez pas l'homme que j'avais engagé. Il sait qui je suis, me disais-je, et trouve ce coup-là pour se recommander. Et voilà qu'après tout, vous n'êtes pas celui qui a répondu à mon annonce, mais un simple étranger. »« Oui, oui, en effet, » approuva le jeune homme. Henchard eut une nouvelle hésitation, puis d'un ton pensif. « Votre front, Farfrae, ressemble à celui de mon pauvre frère, aujourd'hui mort et enterré, et votre profil aussi me rappelle le sien. Vous devez avoir à peu près 5 pieds 9 pouces. Moi, j'ai 6 pieds 1 pouce et demi, sans mes souliers. Mais qu'importe, il est certain que dans nos métiers, il faut de la force et de l'activité pour fonder une maison. Mais c'est le jugement et les connaissances qui la font marcher plus tard. Malheureusement, je n'entends pas grand-chose à la science, Farfrae. Je suis brouillé avec les chiffres. Je fais les choses au jugé. Vous, vous êtes juste l'inverse, je le vois bien. C'est un homme comme vous que je cherche depuis 2 ans, et voilà que vous n'êtes pas pour moi. Allons, laissez-moi vous demander ceci avant de partir. Qu'importe que vous ne soyez pas l'homme pour qui je vous prenais, ne pouvez-vous rester ici tout de même? Êtes-vous donc tout à fait décidé sur ce sujet de l'Amérique? Je n'y vais pas par 4 chemins, je sais que votre aide serait inappréciable pour moi. Inutile de le dire, et si vous voulez rester comme régisseur dans ma maison, vous n'y perdrez pas. Mes plans sont arrêtés, fit le jeune homme en manière de refus. J'ai mes projets, et il est inutile d'insister. Mais ne voulez-vous pas boire un verre avec moi, monsieur? Je trouve que cette bière de Casterbridge réchauffe le ventre. Non, non, je voudrais bien, mais je ne puis pas, répondit gravement Henchard, et le bruit de sa chaise indiqua aux 2 femmes qu'il se levait pour partir. Quand j'étais jeune, j'ai trop bu, beaucoup trop, et j'ai bien failli courir à ma perte. La boisson m'a fait commettre une action dont je garderai la honte, jusqu'à ma mort. J'en ai conservé une telle impression que du coup j'ai juré de ne rien boire de plus fort que du thé pendant autant d'années que j'en avais à l'époque. J'ai tenu mon serment, et même par la canicule, quand je me sens la gorge assez sèche pour boire une feuillette à la régalade, je m'en souviens et ne prends pas une goutte de liqueur forte. Je n'insiste pas, monsieur, je n'insiste pas. Je respecte votre vœu. Allons, je finirai bien sans doute par trouver un régisseur, fit Henchard, avec un accent d'émotion véritable. Mais je serai long à en voir un qui me plaise autant que vous. La conviction chaleureuse d'Henchard parut un instant ébranler le jeune homme, qui resta silencieux jusqu'à la porte. Je voudrais pouvoir rester. Sincèrement, je le voudrais, répondit-il. Mais non, ce n'est pas possible. Je veux voir le monde.